Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouli.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Alors ce soir, nous allons parler d'assassinat et d'enlèvement d'enfants. Comment y mettre fin ? L'assassinat d'une fillette atteinte d'albinisme dans la nuit de samedi 12 au dimanche 13 mai dernier a provoqué une violente manifestation à Fana. Il y a environ un mois, une femme mentalement atteinte et son enfant auraient été tués dans les mêmes circonstances dans la même localité. Le phénomène d'assassinat ou d'enlèvement des enfants se multiplie dans le pays de nos jours. Et pour débattre de ce sujet, nos invités sur ce plateau, Aboubakar El Hassan Doumbia, président de l'Association pour la promotion, la protection et l'insertion sociale de l'enfant albinos SOS Albinos, Drissa Traoré, coordinateur du projet conjoint AMDH-FIDH, et Monsieur Mohamed Touré, psychologue et administrateur des affaires sociales. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Assassinat, disparition et enlèvement de personnes, particulièrement les enfants. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Nous allons ouvrir le débat avec Monsieur Touré.
Merci, madame. Effectivement, moi, c'est Mohamed Touré. Je suis psychologue de mon état et administrateur des affaires sociales. Je me réjouis d'être aujourd'hui dans le débat Grand Dialogue de Sidio Tamani, une radio pour laquelle j'ai beaucoup de passion. J'ai toujours suivi le grand débat. Souvent même, j'ai envie de participer directement, mais je me rends compte que ce n'est pas possible. Donc l'occasion m'est ainsi offerte. Et permettez-moi aussi de remercier tous vos auditeurs qui suivent cette émission très importante de Radio Tamani.
D'accord.
Je crois que, avant de commencer le sujet, proprement dit, il faut d'abord définir ce que c'est qu'un enlèvement. Parce que je crois que c'est autour de l'enlèvement
et assassinat.
L'assassinat et la disparition d'enfants.
Mm-hmm.
Et l'enlèvement, c'est d'abord une action qui consiste à s'emparer de quelqu'un et à le détenir contre sa volonté, et généralement par force, et pour plusieurs raisons.
Oui.
Et quand nous sommes dans le cadre de l'enlèvement de l'enfant, qu'est-ce qui peut amener à ce que vraiment on fasse l'enlèvement d'un enfant?
Qu'est-ce qui explique ce phénomène?
S'explique par plusieurs facteurs, parmi lesquels le premier facteur qui peut amener à enlever un enfant, c'est généralement quand, par exemple, il y a le divorce au sein de la famille, entre les parents, il y a un des parents qui peut s'emparer de l'enfant, l'amener, le voler. On peut l'appeler aussi, le prendre l'enfant, contre le gré de l'autre parent. Ça arrive souvent. Le deuxième facteur qui peut arriver aussi, c'est une autre personne qui n'est même pas de la famille, hein, qui n'est même pas un parent, mais qui peut-être c'est quelqu'un qui a besoin, une femme qui a besoin d'un enfant, qui n'a pas eu la chance d'avoir un enfant. Alors, il guette, il trouve l'occasion, il s'empare, il va avec l'enfant. Et le troisième maintenant, c'est dans ce cadre-là que nous sommes, c'est à caractère criminel. Et à caractère criminel, on donne beaucoup de considérations sociologiques et historiques par rapport à ce caractère criminel. Et très généralement, on parle de crime rituel. En réalité, crime rituel, ça n'existe pas. Le crime, qu'il soit rituel ou pas, c'est un crime et passible de sanctions. Dans nos sociétés anciennes, la vie de l'homme est sacrée. La vie de l'enfant est sacré. La vie du bébé est sacrée. Donc, il n'était pas permis dans nos sociétés anciennes de tuer ou d'assassiner ou de faire le maître d'un enfant. Loin de là. Mais très généralement, on se cache derrière ce qu'on appelle des sacrifices humains. Les sacrifices humains, ce n'est pas des sacrifices d'humains, d'hommes, de personnes. C'est les sacrifices que l'homme fait par rapport à des situations particulières. Les sacrifices humains, ce n'est pas la même chose que les crimes rituels. Les sacrifices humains, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de chaleur, il n'y a pas de pluie. Alors, on essaie de réunir les vieux du village. Alors, on essaie de voir comment faire des sacrifices humains à travers soit des produits alimentaires, soit à travers des animaux. Mais jamais à travers l'individu.
D'accord, nous allons revenir à vous. Monsieur Drissa Traoré, êtes-vous avec nous?
Oui, je suis avec vous.
D'accord. Depuis Mopti. Alors, dites-nous, ces assassinats, disparitions, enlèvements de personnes, particulièrement d'enfants, c'est dû à quoi?
Et nos organisations, notamment l'ANDH, considèrent que cet assassinat est un assassinat gratuit et effroyable. Et bien sûr, qui doit pas rester impuni. Et notamment, un assassinat sur une fille, une petite fille, une enfant, constitue un crime grave. Et alors, pour parler des facteurs qui favorisent de tels crimes, on n'est pas sans savoir que les populations, les Fana ont manifesté hier et ils étaient mécontents, notamment à cause, selon eux, j'ai mis un peu plus de l'indignité, mais aussi du manque de réactivité et des autorités. Mais nous, en fait, on ne fait pas des valeurs, des jugements des valeurs, mais c'est pour parler un peu de la. Alors, dans l'ensemble, vous pouvez constater qu'on m'a dit, je ne dirais pas que l'impunité règne, mais quand même, l'impunité est un facteur qui aggrave la position de crime. Et d'où la nécessité pour les autorités judiciaires de doubler, bien sûr, de redoubler d'efforts pour davantage, et non seulement permettre aux victimes de tels crimes d'accéder à la justice, mais et surtout aussi de condamner les cas échéants des auteurs de tels crimes. Et là, nous avons très pertinemment que la lutte contre l'impunité est un moyen, bien sûr, un défi très important pour prévenir de tels crimes. Et vous savez que nous sommes en période de préélectorale, donc on n'est pas sans savoir qu'il faut prévoir de telles infractions, de telles exceptions. Donc, d'où la nécessité de réagir, bien sûr, avec plusieurs et avec plusieurs pour prévenir la survenance d'autres crimes de cette nature.
D'accord, M. Traoré. Alors, M. Touré, vous venez d'entendre tout de suite, M. Traoré, que nous parle d'impunité. Partagez-vous ce même point de vue?
Non, évidemment, je partage le point de vue, mais je pensais qu'on n'est pas arrivé encore à l'aspect concernant ce qui pourrait peut-être engendrer la situation d'infanticide ou bien d'enlèvement ou d'assassinat d'enfants. Moi, je pense qu'il faut d'abord reconnaître qu'il y a une crise de valeurs, une crise d'humanisme et même d'humanité qui touche un peu notre pays depuis un certain moment. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de disparition et d'assassinat d'enfants, mais en réalité, ça va au-delà. Il y a beaucoup d'autres formes d'assassinats qui sont en train de se faire un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Et que ce que nous vivons aujourd'hui au niveau de Fana, c'est un aspect qui, pour nous, on ne peut pas du tout le tolérer et on est obligé de le dénoncer et on est obligé d'interpeller tous ceux qui doivent intervenir pour qu'une telle situation ne puisse se reproduire. Parce qu'aujourd'hui, c'est Fana. Demain, ça peut être encore Fana. Après, demain, ça peut être une autre localité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela ne puisse plus revenir? Mais la réalité, il faut le dire, c'est le contexte dans lequel nous sommes qui est en train de nourrir un peu ces questions d'inhumanisme vis-à-vis entre nous-mêmes maliens et qui va jusqu'à toucher les couches les plus sensibles, qui sont les enfants. C'est pour simplement vous dire que ce n'est pas tout à fait lié à ce qu'on dit généralement qu'il s'agit de crimes rituels. Loin de là, ce n'est pas des crimes rituels. Parce que pour moi, un crime rituel, c'est comme n'importe quel autre crime et qui est passible des mêmes sanctions que n'importe quel autre crime. Il ne faut pas qu'on se cache derrière le fait que non, c'est des crimes rituels. Mais c'est des assassins qui ont fait ce travail. Et il faut les identifier, il faut les traquer et il faut qu'ils répondent de leur acte criminel qu'ils ont fait. Donc c'est comme ça que moi, je vois la question. Et pour moi, il faut le mettre dans un cadre beaucoup plus global à l'orée des élections à venir. Parce que chaque fois qu'il y a une situation du genre, il y a un événement qui s'annonce de grande envergure. On a connu après les événements de 91, la violence était de mise pratiquement tous les jours. Aujourd'hui, on est à quelques mois des élections, on revoit encore cette violence surgir. On doit se poser des questions et savoir qui n'a pas fait son travail et qui devrait être interpellé pour que le travail soit fait.
D'accord. Alors, Monsieur Traoré, pensez-vous qu'y a-t-il un lien avec les élections qui se préparent?
Bon, moi, je ne saurais le confirmer. Mais il ne faut pas négliger, bien sûr, et c'est là, puisque ces derniers temps, je crois que ce cas n'est pas isolé. Donc, ces derniers temps, nous avons effectivement constaté qu'il y a un enlèvement d'enfants, et voire assassinat de par-ci par-là, même si, bon, il faut quand même nuancer, c'est pas à grande échelle, mais quand même, voilà, il faut prendre des mesures adéquates pour, si bien sûr c'est dû aux élections, il faudra prendre des mesures avant les élections, mais il faut se dire une chose, c'est la surveillance et la sécurisation des populations, c'est une question de... C'est un besoin quotidien. Donc, cette sécurisation ne doit pas être liée qu'aux élections. Et tous les jours, les citoyens doivent... On doit sécuriser les citoyens et leurs biens. Et quand on se nous soyons en amont des élections ou pendant ou après les élections, donc il est important que des mesures idoines soient prises, pour assurer la sécurité des populations. Et si il se trouve que c'est lié aux élections, donc il faut quand même, redoubler d'efforts pour davantage sécuriser les populations, et notamment les enfants. Mais permettez-moi de revenir un peu sur le caractère criminel, pour rassurer notre ami que le caractère criminel n'enlève en rien, bien sûr, la gravité, bien sûr, du fait que, bien au contraire, ça pourrait être une circonstance aggravante. C'est surtout ces faits sur un enfant. Donc, c'est un crime grave. Et d'où la nécessité, comme je disais tantôt, de faire la lumière sur cette infraction. Et là, c'est surtout poursuivre l'auteur ou les auteurs, le cas échéant, les condamnés, pour éviter la récurrence de tel crime. Parce que j'ai cru comprendre que ce n'est pas la première fois que ça arrive à Fana. Je crois qu'il y a quelques semaines, une femme et son enfant auraient été exécutés. Et donc, voilà. La réponse idoine doit être une réponse judiciaire, mais surtout, elle doit être aussi une réponse venant bien sûr aussi des populations. Donc, les populations qui doivent bien sûr être appelées à la retenue. Hier, je peux vous dire qu'hier, moi, j'étais un témoin des manifestations qui ont eu lieu, puisque je venais de Ségou. Là, j'ai coïncidé avec. Là, les routes étaient barrées, les pneus brûlés, la gendarmerie brûlée, des bars et des restaurants brûlés. Donc, je peux comprendre l'indignation des populations, mais il est quand même important qu'on revienne un peu et qu'on sache, comme on le dit souvent, qu'on sache les raisons gardées. D'accord. Et surtout, que nous interpellons les autorités pour, bien sûr, apporter des réponses afin de calmer les ardeurs de la population.
D'accord. Oui, M. Touré, vous voulez réagir?
Je ne souhaiterais pas peut-être qu'on fasse une fixation autour de Fana. C'est à Fana que le cas a été révélé. Mais on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs cas ailleurs qui n'ont pas été révélés, qui n'ont pas été connus et qui n'ont pas été mis devant la scène publique? Parce que c'est ça l'importance même de la communication, de la presse, de pouvoir donner l'information parce qu'elle a existé. Mais combien de cas comme ça existent qui ne sont pas connus et qui ne sont pas mis au devant de la scène publique? Mais ça ne veut pas dire que ces cas n'existent pas. Les cas, déjà, existent partout. Mais je me dis aussi que où que ça puisse se produire, et il va falloir se poser des questions. Et je suis d'accord que ce n'est pas que les élections, ce n'est pas que à l'approche des élections électorales, mais j'ai dit quelque part aussi, on a toujours constaté que chaque fois qu'il y a des événements de telle nature qui s'annoncent, alors il y a une confusion qui fait que souvent on rencontre des cas de violence. Parce que moi, je mets l'assassinat et la disparition de ces enfants dans un cadre de violence généralisée à tous les niveaux et qui concerne toutes les couches de notre pays, aussi bien au nord qu'au sud. Donc, c'est cette généralisation que je voudrais qu'on mette en avant et pour dire, mais pourquoi aujourd'hui cette situation, nous la vivons et qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette situation?
Et selon vous, pourquoi la multiplication de ces incidents maintenant?
Bon, la multiplication de ces incidents peut avoir, en fait, plusieurs raisons. Je dirais d'abord que notre société, depuis un certain moment, on a constaté qu'il y a une sorte de crise de valeurs, crise d'humanisme. La fraternité d'antan, le vivre ensemble d'antan est en train de s'émousser. Aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes dans une société où chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est ça, chacun est pour soi. Ce n'est plus la collectivité, ce n'est plus la famille, ce n'est plus les autres. Chacun c'est l'égoïsme qui s'installe. C'est la part du gain personnel qui est là. Et je ferai tout pour subvenir à ce besoin, même si je dois utiliser les armes pour pouvoir subvenir à ce besoin. C'est le communautarisme. Certains qui pensent que non, il est grand temps que nous-mêmes nous puissions nous gérer sans que ça ne soit dans un cadre normatif, dans un cadre institutionnel, dans un cadre politique. Ça aussi, ça amène cette violence. Le cas du radicalisme religieux qui est là, qui est aussi un facteur qui est en train de gangréner la société parce que simplement, certains religieux n'ont pas compris le rôle réel de la religion. Et imaginez-vous des gens qui viennent dire qu'ils vont apprendre aux gens de Tombouctou la religion musulmane, qui pourrait l'expliquer? Ça, on ne l'appelle pas la religion, c'est autre chose. Donc vous voyez, sans oublier la conjugaison de tous ces facteurs d'ordre de déception, d'ordre endogène, mais aussi exogène. Parce que la violence, ce n'est pas seulement une affaire à l'intérieur du pays, mais la violence s'internationalise. La violence, c'est partout. Donc c'est tous ces facteurs qui concourent pour qu'aujourd'hui, nous nous mettons dans une situation où nous n'avons plus de tolérance vis-à-vis de l'autre et on n'hésite pas à utiliser tout ce que nous avons sur nous pour pouvoir faire notre crime. Et malheureusement, quand ça touche les enfants, je crois que là, on doit se poser des questions et on doit vraiment se donner la main pour voir comment réguler définitivement ce problème parce que ça ne peut pas continuer. Les bébés d'aujourd'hui sont l'avenir de ce pays. Si on vient les assassiner, on se demande que sera l'avenir. L'avenir même d'un pays, c'est l'enfant. Mais si l'enfant disparaît, si l'enfant est assassiné, on doit se poser la question, que sera devenu l'avenir après? Donc c'est pourquoi toutes les composantes de la société, pas seulement les autorités, toutes les composantes de la société, à partir de la famille, à partir de l'individu, à partir du père. Parce qu'aujourd'hui, avec la situation de Fana, il y a une peur qui s'empare, une peur, une anxiété qui s'empare aussi aujourd'hui de l'ensemble des familles. Tout le monde se pose la question, demain, ce serait le tour de qui? Et les gens ont commencé à prendre des dispositions pour dire aux enfants, ah, c'est vrai, il faut aller à l'école, mais il faut faire attention. Il faut sortir de la maison pour vous amuser avec vos camarades, mais faites beaucoup attention. Donc, les parents vont au travail, mais en réalité, ils n'ont pas la concentration sur le travail. Ils sont anxieux par rapport à qu'est-ce que l'enfant serait devenu avant leur retour. Vous voyez toutes ces situations qui font qu'on ne peut pas du tout accepter, on ne peut pas du tout tolérer que des individus puissent vraiment mettre la culture des populations en jeu.
D'accord. Alors, M. Traoré, selon vous, se situent les responsabilités?
Je pense qu'à ce stade, il n'est pas constructif de situer les responsabilités. Il faut plutôt, comme on l'a dit, c'est la même. Il faut plutôt une synergie d'action pour pouvoir, bien sûr, aider les autorités à pouvoir faire la lutte sur l'affaire, puisqu'aujourd'hui, la famille est endeuillée. Et donc, s'il serait prématuré de commencer à juger les responsabilités, ça ne va pas alléger la souffrance de la famille. Il faut plutôt, bien sûr, mener une enquête pour pouvoir mettre la main sur l'auteur ou les auteurs. Si, bien sûr, on arrive, si les autorités arrivent à arrêter l'auteur ou les auteurs, il s'agirait alors de faciliter l'accès de la famille à la justice pour permettre, bien sûr, la manifestation de la vérité et surtout mettre la famille dans les droits. Et certes, aucune mesure ne pourrait, bien sûr, compenser la mort de la jeune fille, aucune mesure ne pourrait, mais c'est quand même important, bien sûr, de pouvoir apporter une réponse judiciaire, au moins pour soulager la famille de la victime. Donc aujourd'hui, nous appelons bien sûr à la retenue pour les populations et surtout nous exhortons les autorités judiciaires et politiques à pouvoir diligenter des enquêtes impartiales pour pouvoir bien sûr apporter une réponse diligente et idoine à ces crimes crapuleux. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il serait bien sûr pas constructif de citer les responsabilités, il faut plutôt faire une synergie et se donner la main pour pouvoir satisfaire bien sûr les besoins de justice de la famille endeuillée.
Mais pensez-vous que cela est possible?
Oui, cela est possible. Cela est possible, bien sûr, à travers une volonté, bien sûr, manifeste de la part des autorités judiciaires et surtout la population coopère. Donc, c'est là pour Fana, c'est une grande ville, je sais, mais avec le concours de la population, et avec plus de moyens et de volonté de la part des autorités judiciaires, et donc, il est possible, bien sûr, de mettre la main sur, sur les criminels présumés, bien sûr, de ces crimes effroyables et minables. Donc, il n'est rien impossible à ce stade, ça ne sert à rien. C'est pour, il faut, la violence n'arrête pas la violence. Ça, ce n'est pas possible. Il faut plus de retenue et calmement soutenir, bien sûr, les efforts des autorités. Je suis d'accord que les populations, y compris nos organisations, soient, bien sûr, indignées. Mais bon, l'air n'est pas aux critiques, l'air n'est pas au financement des hôpitaux, à la communion, pour pouvoir aider la famille et aider la justice, surtout à mettre la main sur les auteurs.
D'accord, M. Traoré. Oui, M. Touré, vous voulez réagir?
Je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il faut, quand il y a le feu, il faut d'abord éteindre le feu. Une fois qu'on éteint le feu, maintenant, on va chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut pour que ce teigne ne puisse plus prendre de l'ampleur.
Oui.
Mais aujourd'hui, il faut d'abord chercher à identifier, à traquer les auteurs. Et là, c'est les autorités sont les premiers responsables qui doivent se mettre au devant, évidemment, avec en travaillant un peu avec les communautés, avec les familles. Parce que quel est le problème? C'est l'État moderne est venu comme dans l'intention de vouloir faire table rase de tout ce qui existait avant. L'État moderne devrait se rabattre un peu sur l'État traditionnel pour pouvoir travailler. Avant, dans les temps anciens, mais si quelqu'un malfrat est dans la communauté, mais ce malfrat, il est identifié, il est connu par la communauté et il est châtié, il est sanctionné par la communauté. Donc la communauté peut être informée réellement si elle est vraiment mal impliquée dans le processus de ceux qui sont les auteurs de ce crime, parce que les auteurs, là, ils ne sont pas venus d'ailleurs. Ils sont quelque part dans une famille. Donc, il faut engager une recherche très, très poussée pour essayer de traquer d'abord les auteurs. Et une fois que maintenant les auteurs sont traqués, il faut les traduire devant la justice. Et vraiment, c'est là que je crois qu'il faut que l'impunité cesse dans ce pays. Ces gens-là, il faut qu'ils répondent de leurs actes. Les textes législatifs sont là, les textes réglementaires sont là pour dire que telle personne qui promet tel crime doit répondre à telle sanction. Il faudrait qu'on puisse appliquer la sanction. Mais au-delà des populations, des autorités, les organisations de défense des droits de l'homme en général et les organisations des droits des enfants en particulier ont aussi un rôle extrêmement important pour sensibiliser davantage les populations, pour qu'on puisse chercher à identifier les intéressés et les traduire et suivre le dossier. Parce que très généralement, dès qu'on dit qu'ils sont entre les mains d'un commissariat, alors les gens pensent que le travail est fini. Mais on connaît beaucoup de cas qui n'ont pas connu vraiment une suite à la hauteur de la crime qui a été commise.
D'accord. Alors, M. Traoré, vous venez d'entendre M. Touré tout de suite qui dit que même si certains qui sont arrêtés, mais au-delà de ça, il n'y a rien qui se passe. Donc, que dites-vous de cela?
J'ai pas compris la dernière phrase.
Oui, il y a M. Touré ici qui nous dit que même s'il y a eu de ces cas, même si les personnes ont été identifiées et arrêtées, il n'y a pas eu de suite.
Allô?
Oui, M. Traoré, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, mais
Monsieur Touré nous disait que bien qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées dans d'autres circonstances, il n'y a pas eu de suite.
Oui. Ah, ok.
Dans le cadre de l'impunité.
En fait, je suis entièrement d'accord que avec lui, l'impunité, bien sûr, est un boomerang. En fait, c'est l'impunité, bien sûr, elle est source, bien sûr, de la récurrence des crimes et de la violence et aussi c'est une mesure visant non seulement à punir et à réprimer mais aussi à prévenir bien sûr la récurrence des crimes et la commission des crimes et si bien sûr des mesures sont prises pour réprimer des tels crimes ça permet effectivement d'éviter la récurrence des crimes donc je suis entièrement d'accord que et nous, on a l'habitude de le dire dans le cadre des viols à répétition qui ont été retentis à Bamako un moment. À l'époque, nous avons dit aux autorités que cela constitue un problème dans la mesure où il y a eu des crimes, disons des viols à l'époque qui n'ont pas donné, bien sûr, une encourage d'autres à commettre ces crimes. Mais si, bien sûr, il y avait, on avait rendu justice pour effectivement punir les auteurs et mettre dans leurs droits les victimes. Et donc cela avait bien sûr découragé d'autres individus à commettre des crimes. Donc voilà, je reviens bien sûr au début pour dire que le levier de la justice est important, que le levier de la lutte contre l'impunité est important pour éviter et encourager surtout d'autres à commettre de tels crimes.
Est-ce qu'on peut dire que cela peut être l'une des raisons du soulèvement de la population à Fana durant le week-end suite à cet événement-là?
Oui, on peut comprendre l'indignation de la population. On peut comprendre l'indignation de la population, mais on ne peut pas non plus accepter la violence. On ne peut pas non plus accepter, bien sûr, que des manifestations débouchent sur de telles violences. Puisqu'il faut reconnaître qu'il y a des propriétés privées qui ont été incendiées, ça aussi c'est une atteinte aux droits d'autrui. Donc la gendarmerie a été coulée, c'est un bien public, c'est pas normal aussi. Des bars et des privées ont été brûlées. Tout cela aussi constitue bien sûr la violation des droits d'autrui. Donc si de tels événements arrivent, il est important bien sûr, à mon avis, pour la population, de réagir en toute légalité. Mais je peux comprendre aussi, parfois, quand on en a ras-le-bol, cela peut bien sûr aboutir sur de telles manifestations. Mais il faut quand même revenir à la raison et coopérer avec la justice pour mettre la main sur les autres.
D'accord. Oui, M. Touré.
Je m'en voudrais, en tant que psychologue, si je ne parle pas aussi de la prise en charge psychologique des victimes par rapport à cette situation. Parce que, bon, imaginez-vous dans quel état se trouve la maman de cet enfant qui a été assassiné, dans quel état se trouve son papa, dans quel état se trouve sa famille. Il ne faut pas abandonner cette famille qui aujourd'hui vraiment est pleurée par cette situation d'assassinat de leur enfant. Parce qu'à côté de la prise en charge juridique qui est tout à fait normale, il faut penser aussi à une prise en charge psychologique et une prise en charge sociale qu'on néglige très généralement et qui a des conséquences souvent sur la famille. Mais par rapport à votre question pour dire qu'est-ce que cela explique le soulèvement, bon, je dirais oui, ça explique, hein, mais ça ne justifie pas le fait d'aller attaquer vraiment des structures privées et des structures publiques, pour la simple raison que l'État doit se dire que le fait de sortir, que la masse sorte, que la population s'indigne à travers des marches, c'est normal, c'est constitutionnel, mais il faudra que l'État puisse vraiment encadrer. Il ne faut pas laisser la foule. La foule est plus dangereuse que tout ce qu'on peut imaginer. La foule est incontrôlée. Dès que c'est la foule, il faut s'attendre à tout. Donc, l'État doit se dire, si les populations sont sorties, comment travailler avec ces populations, comment les encadrer pour que cette marche puisse se faire dans les conditions meilleures, même si, en réalité, cette marche, c'est contre l'État. Toutes les marches qui se font pratiquement, c'est contre l'État, mais ce n'est pas une raison pour que l'État ne puisse pas sécuriser les structures publiques et puis les biens des privés. Et c'est là. Sinon, ça s'explique bien que les populations manifestent leur indignation, leur mécontentement par rapport à ce qui s'est passé. Mais ça ne peut pas justifier des attaques de services publics. Et on ne peut pas imaginer qu'une gendarmerie qui est là pour sécuriser les populations, pour leur propre sécurité. Parce que simplement, il y a eu un problème d'humeur. Bon, je m'excuse, hein, c'est un problème réel, mais ce n'est pas une raison pour aller saccager la gendarmerie, qui est là pour protéger la population. Il faut qu'on aille dans le cadre de la concertation et de la collaboration entre tous pour que ces événements ne puissent se reproduire. Il ne sert à rien d'être dans une tension de l'État contre les populations et éviter vraiment que la foule ne puisse se déverser dans la rue avec toutes les conséquences auxquelles nous pouvons nous attendre.
Oui. Voilà. Vous avez fait mention d'une question qui, pour parler de la prise en charge psychologique des victimes. Ouais. Pouvez-vous nous dire concrètement quel impact toute cette situation peut avoir sur la population?
Ok, vous savez, hein, devant toute situation où la personne a été agressée physiquement ou psychologiquement, la personne devient une autre personne. Elle devient diminuée mentalement. Elle a besoin maintenant de se résilier, de revenir à elle-même. Et c'est là que, soit à travers des médiums sociaux que nous avons déjà sur le terrain, traditionnels, comme les chefs de village, comme des personnalités sociales importantes, comme des imams, on peut les amener à aller rencontrer les parents de la victime, parce qu'il s'agit d'un enfant qui est assassiné, pour essayer de voir comment faire un soutien psychologique pour que l'endurance de la situation soit moindre, pour qu'elle soit moindre, et elle va disparaître peut-être avec le temps, mais pour qu'elle soit moindre. Mais tant que vous laissez la personne à son sort, il y a ce que nous appelons des flashbacks, comme des images noires qui sont là. Son enfant qui était là hier, qu'il aimait bien, qu'il a perdu comme ça dans une situation. Et il peut comprendre que c'est une mort naturelle, et avec la religion, il comprendra très bien que c'est une mort naturelle, même si c'est toujours une mort, mais quelque part, il va pouvoir se résilier pour dire que c'est un fait de Dieu. Les autres sont venus me voir. Je vais essayer de voir comment l'accepter. L'accepter, c'est douloureux, mais ça finira par se comprendre au fur et à mesure. Mais c'est une situation que nous ne faisons pas généralement. C'est une intervention que nous ne faisons pas généralement. Et on se rend compte que souvent, ça joue sur le moral, le mental de la famille. Si c'est une victime qui a été violée, ça peut jouer sur son mental pour toujours. Elle ne sera plus celle qu'on a connue par le passé. Et ça peut jouer sur sa vie, même sur le plan même des relations avec les autres, les relations avec elle-même et avec l'ensemble de la société. Donc elle ne sera plus celle qu'on a connue par le passé. Donc c'est pourquoi c'est important qu'il puisse avoir cette prise en charge psychologique qui doit accompagner les autres formes de prise en charge que nous faisons en cas de sinistre ou en cas d'agression sur un individu.
D'accord. Alors, M. Traoré, bien que les associations sont à pied d'œuvre pour faire face à ce phénomène, il ne fait que se détériorer. Qu'avez-vous à nous dire concernant ça? Qu'est-ce qui explique tout cela?
La question de prise en charge psychologique, je suis entièrement d'accord avec lui que c'est important, même si dans d'autres pays on minimise cette problématique. Et là, pour le reste, je n'ai pas compris quand vous dites qu'est-ce qui explique quoi. Je n'ai pas compris.
Je disais que bien que les associations sont à pied d'œuvre pour faire face à ce phénomène, ça continue qu'à se détériorer.
Oui. Chacun, je comprends effectivement la question, et chacun est dans son rôle. Le rôle des associations de défense des droits de l'homme, c'est de continuer à observer, c'est de continuer à alerter et surtout de proposer. Et bien évidemment, ça passe aussi par la prise en charge des victimes. Mais de l'autre côté, il faut plus d'efforts et de volonté de la part des tenants du pouvoir pour apporter, bien sûr, des services régaliens. Puisqu'il faut reconnaître que les marges de manœuvre des associations sont limitées. Et les associations ont beau avoir cette volonté, bien sûr, d'aider les victimes, elles ne peuvent pas rendre justice. Elles ne peuvent pas non plus, elles n'ont pas de force répressive pour sécuriser les populations. Donc, je disais tantôt, tout à fait, qu'il n'est pas du tout à négliger. Donc, les populations, disons, les droits à la sécurité et les droits à la justice sont les droits, bien sûr, qui reviennent aux populations. Et les devoirs de sécuriser et les devoirs de rendre justice sont, bien sûr, sont de l'apparition étatique. Donc, d'où la nécessité pour chacun de continuer à jouer son rôle. Et surtout, il faut que nous travaillions dans la complémentarité. Donc, nous, à ce qui nous concerne, et nous n'allons pas rester en marge, bien sûr, de cette lutte qui est une lutte salutaire, qui est une lutte, bien sûr, qui permet d'entretenir une paix sociale et une cohésion sociale pour effectivement permettre à toutes les populations de vivre dans une quiétude, bien sûr. Et cela favorise naturellement le développement et l'épanouissement.
D'accord. Oui, M. Touré.
Bon, moi, je pense que la société civile a un rôle extrêmement important à jouer aujourd'hui pour non seulement apaiser la situation que nous vivons aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national par rapport aux élections à venir. Nous entendons souvent un certain nombre d'idées qui nous font peur. Dès qu'il y a la tension, il y a l'électricité en l'air. On dit qu'il faut faire beaucoup attention avec ces messages. L'essentiel, c'est de mettre les acteurs devant les responsabilités et que chacun sache ce qu'il doit faire et qu'il le fasse très bien. Et le rôle, effectivement, de la société civile, c'est un rôle de veille, d'alerte, de conseil, et d'amener chacun à dire c'est toi qui dois faire ça, est-ce que tu l'as fait, et évaluer ce qu'il a fait. S'il ne l'a pas fait, le mettre devant la responsabilité pour qu'il le fasse. C'est valable aussi bien pour tous les autres acteurs que pour l'État. Et c'est une mission qui lui revient.
Concrètement, selon vous, qu'est-ce que l'État doit faire?
Qu'est-ce que l'État doit faire?
Concrètement, oui.
Oui, l'État ne doit pas tout faire, mais l'État doit faire beaucoup de choses. D'abord, la sécurité des populations, à prime abord, revient à l'État. La gendarmerie, la police, la justice, l'administration. Tous ceux-ci sont là pour la sécurité des populations et la sécurisation de l'ensemble des biens de la communauté. Donc, le rôle régalien qui revient à l'État, à prime abord, c'est d'abord la sécurité des populations. Et ça ne le revient pas seul. Même les communautés entre elles, comme on l'a dit, le fait de donner une information par rapport à des brigands qui sont dans une communauté, c'est un rôle qui peut revenir aussi à la communauté. Donc la communauté aussi peut donner l'information à l'État. Et ce n'est pas à la communauté, en fait, d'aller se faire justice. C'est plutôt à la communauté d'informer l'État pour que l'État puisse mettre la forme qu'il faut pour pouvoir traquer. Mais il n'y a pas seulement que la force. Mais l'État aussi a une mission d'information et de sensibilisation des populations. Comme on l'a dit, mieux vaut prévenir que guérir. Créer toutes les conditions matérielles, logistiques, pour éviter tout débordement qui pourrait intervenir. Le cas, par exemple, de ce dont nous parlons tout de suite, par rapport à l'assassinat des enfants, nous avons des structures étatiques qui ont en charge la gestion des enfants, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il existe des structures au niveau régional, au niveau local. Leur mission, c'est exactement pour la protection et la sauvegarde des intérêts des enfants. Donc ça veut dire que ça aussi, c'est un rôle de l'État, parce que c'est des structures déconcentrées et de l'État. Et à côté des missions de sécurisation des populations au niveau des forces de l'ordre et de sécurité. Comme on l'a dit, il y a les missions d'information, mais il y a aussi les missions de formation. Il faudrait former tous ceux qui interviennent aussi dans le cadre de la protection des enfants. Il faudrait créer les structures aussi pour que ces enfants puissent être quelque part protégés. C'est un bébé. Mais il aurait été être un enfant, par exemple, de 7 ans, mais sa place est à l'école. Il doit être à l'école. Et l'État doit faire en sorte que, comme c'est un droit constitutionnel, que l'enfant puisse aller à l'école. D'accord. Donc tout ça rentre dans le cadre de la protection de l'enfant et du développement de l'enfant, qui est de la responsabilité de l'État, mais en collaboration aussi avec non seulement les communautés, mais n'oublions pas aussi les collectivités qui sont là, ont un rôle extrêmement important à jouer. Parce que tous ces enfants, toutes ces structures élèvent d'une communauté. Et qu'est-ce que la collectivité fait pour pouvoir protéger ces populations? Là aussi, c'est important de le mettre sur la table et d'en discuter. Donc, l'État a son rôle, mais il n'est pas le seul. Mais il est le rôle catalyseur pour que toutes les conditions soient réunies. D'accord. Pour la protection des enfants.
Tout à fait. Alors, Monsieur Traoré, selon vous, comment mettre fin à ce phénomène? Monsieur Traoré.
Oui, je vous suis. Il n'y a pas une solution magique à ces problèmes. Et la solution doit venir de l'application stricte des lois certain aspect. Et cela passe, cette application doit se traduire par la distribution d'une bonne justice. Et doit également se passer par la facilitation des accès des victimes ou de la victime à la justice. Et en plus, bien sûr, de l'application stricte des lois, et il faut aussi plus de volonté politique de la part des autorités pour pouvoir accompagner la justice afin de lui permettre de pouvoir, bien sûr, mettre fin à de telles pratiques. Et il y a aussi, mon frère a parlé de la pédagogie. Donc, il doit y avoir aussi de la pédagogie, puisque tous ces phénomènes ne doivent pas être résolus par la voie illégale. Et il faut aussi passer par la pédagogie, notamment la sensibilisation et l'information sur les pratiques illicites, la sensibilisation et l'information sur les droits et les devoirs des citoyens. Et donc, ce travail peut aussi, peut revenir à la société, tant à la société civile qu'aux acteurs étatiques. Mais il faut et surtout, et bien sûr, inciter les populations à coopérer avec les forces de l'ordre. Et cette coopération, bien sûr, elle doit être, encouragée et de l'autre côté par les forces de l'ordre qui doivent, bien sûr, qui ne doivent plus regarder les populations comme étant des ennemis, mais plutôt comme des acteurs qui doivent les aider dans leur travail régalien, qui est la sécurisation des populations et leur bien. Donc, en vrai dire, il n'y a pas une solution magique. Il doit y avoir un concours de facteurs, un concours des moyens pour pouvoir éradiquer, sinon réduire ces phénomènes d'insécurité qui deviennent de plus en plus fréquents dans notre société.
D'accord. Merci, M. Traoré. M. Touré, avant de boucler ce débat, un mot de la fin.
Bon, le mot de la fin, c'est d'abord saluer Radio Tamani pour nous avoir invités à ce débat, qui non seulement est un débat sur un problème d'actualité, mais c'est un débat aussi sur un problème très important sur lequel tout le monde doit pouvoir se prononcer. Non seulement se prononcer, mais aussi intervenir. Ce problème, il faut mettre fin à ça. Comme mon frère l'a dit tout de suite, il n'y a pas de solution toute faite. Mais nous pensons que si nous arrivons à mettre en place les différentes énergies intelligentes, la société civile, l'État, les populations, on arrivera à bout de cette situation que nous regrettons amèrement. Mais pour ça, il faut vraiment une union sacrée de l'ensemble des populations pour faire face à ce problème.
D'accord.
Et faire en sorte que ce problème ne puisse se répéter. Ce n'est pas dans l'intérêt des familles, ce n'est pas dans l'intérêt de la nation, ce n'est dans l'intérêt de personne.
Merci, M. Touré. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Je tenais à rappeler que M. Aboubakar El Hassan Doumbia, président de l'Association pour la promotion, la protection et l'insertion sociale de l'enfant albinos, bien qu'il ait confirmé sa présence, ait été absent de ce débat. Merci beaucoup à nos invités. Ce débat prend fin, qui était sur l'assassinat, les enlèvements et la disparition des enfants. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Mamadi Keïta. La régie doit être assurée par Noundjiré Pétindjara pour la photo. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mouni.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.